Radio Okapi.
Le journal Pascal Masirika.
Les titres de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, plaide pour le renforcement des troupes au front dans l'est de la RDC afin de barrer la route aux rebelles du M23, appuyé par l'armée rwandaise. Requête formulée hier à Kinshasa lors d'un entretien avec le ministre de la Défense nationale et des officiers supérieurs de l'état-major général des FARDC. Hausse de prix du carburant dans la ville de Kananga. Depuis plus d'une semaine, un litre d'essence est passé de 4600 à 6000 francs congolais, raison évoquée par des sources concordantes, la rareté de produits. Notre invitée, c'est Madame Francine Muyumba. Cette sénatrice, membre du FCC de Joseph Kabila, a initié à Kinshasa la pétition exigeant la convocation d'une session extraordinaire du Parlement. Objectif affiché, mettre fin à l'état des sièges et annuler l'accord avec l'EAC. Madame, Messieurs, bonsoir. Le président de l'Assemblée nationale invite les ministres de la Défense nationale et l'état-major général des FARDC à prendre des dispositions utiles pour renforcer les troupes au front dans l'est de la RDC afin de barrer la route aux rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Christophe Mboso l'a dit hier mercredi lors de l'entretien au Palais du Peuple avec le ministre de la Défense nationale accompagné des officiers supérieurs de l'état-major général de FARDC. Tout en saluant l'adhésion de la RDC à l'EAC, les deux parties ont déploré le fait que la force de l'EAC déployée au nord Kivu ne soutient pas les FARDC sous la ligne des fronts. Le président de la Chambre basse du Parlement demande également au chef de l'État de prendre des mesures qui s'imposent. Il est au micro de Michel Kifindangoy.
Merci au ministre de la Défense, à l'état-major de notre force armée d'avoir répondu à notre invitation. Nous prendrons contact avec le commandant suprême des forces armées pour faire rapport de nos entretiens et présenter des propositions au nom de la représentation nationale. Nous saluons l'adhésion de notre pays à la communauté de l'Afrique de l'Est. Cependant, si dans un délai raisonnable, les forces régionales n'arrivent pas à nous soutenir contre l'agresseur et qu'il se complaise à soutenir ou à aider nos ennemis, nous demanderons au commandant suprême des forces armées pour qu'il prenne la décision qui s'impose. Notre pays doit s'assumer. Ce n'est plus le moment où nous devons laisser les chefs de l'État seuls travailler. Nous soutenons les bons éléments de notre forces armées. Ceux qui trouvent qu'ils ne peuvent pas rendre service aux forces armées, qu'ils tirent les conséquences.
Pendant ces temps au nord Kivu, environ 30 000 personnes venues de Kichanga ont trouvé refuge à Mweso, localité située à environ 20 km au nord-ouest de la chefferie de Bachali. Ces déplacés avaient fui récemment les affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise depuis le 26 janvier. Médecins sans frontières qui intervient dans cette zone parlait d'un afflux de beaucoup de malades. Selon son chargé des affaires humanitaires, MSF continue d'appuyer l'hôpital général de référence de Mweso et 7 centres de santé, dont 6 de la périphérie. Le point de la situation avec vous, Bernardine Diambou.
Pour cette organisation humanitaire, ces milliers de déplacés sont dépourvus de tout. Ils n'ont pas assez d'eau, pas de nourriture, pas d'abri, ni d'articles de première nécessité. Sur place, leurs équipes font face à un afflux important de malades. Les principales pathologies sont les paludismes, les infections respiratoires et les diarrhées. Dieudonné Kajibouami.
Depuis le 31 janvier dernier, nous avons mis en place 2 cliniques mobiles pour répondre aux besoins médicaux urgents des personnes déplacées. Et plus de 300 patients y ont déjà été soignés. Nos équipes ont construit des latrines et fournissent de l'eau dans et autour des nouveaux sites des personnes déplacées. Et bien sûr, des besoins importants sont également notifiés à dehors de la ville des Mweso, mais les difficultés d'accès limitent l'assistance humanitaire. Avant ce déplacement massif des populations, entre décembre et janvier 2023, une épidémie de choléra due aux inondations avait frappé la localité avec plus de 100 cas. Mais actuellement, l'épidémie est maîtrisée avec 1 à 2 patients par jour. Avec ces nouvelles vagues de déplacés, nous essayons de faire de notre mieux pour que le nombre de cas ne grimpe de nouveau.
Lundi dernier, toujours selon MSF, une deuxième clinique mobile a été mise en place pour permettre d'atteindre d'autres personnes déplacées autour de Mweso, notamment dans la localité de Bukama, Goma, Bernardine Diambo, Radio Okapi.
Dans la province du Haut-Katanga, la société civile de Mitwaba, territoire situé à plus de 500 km de la ville de Lubumbashi, dénonce les tracasseries dont sont victimes les habitants de la part de certains éléments des FARDC. Cette structure citoyenne affirme qu'il y aurait aussi des cas de viol. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que certains présumés auteurs de ces actes seraient aux arrêts. Reportage à Lubumbashi de Jean Ganduka Bongo.
Le cas de tracasserie ne sont pas seulement enregistrés à Mitwaba Centre. Ils sont aussi décriés à Mufunga Sampoué, situé à peu de 100 km du chef-lieu du territoire de Mitwaba. Des hommes en uniforme extorquent les biens de toute nature des paisibles citoyens. Il y a aussi des cas de viol. Parmi les victimes se trouve une femme âgée de plus de 60 ans. Elle avait été abusée vers la fin du mois de janvier dernier. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que 2 semaines après les faits, elle est toujours hospitalisée. Une autre femme âgée d'une vingtaine d'années a été victime d'un viol collectif au village Kimungu, situé à plus de 75 km de Mitwaba Centre. Elle s'est rendue à la rivière, accompagnée de sa fillette d'environ 3 ans. Chemin faisant, elle a croisé 3 militaires qui l'ont menacée à l'aide de leurs armes et l'ont tirée en brousse où ils l'ont violée à tour de rôle. La victime aurait dénoncé ces faits auprès du commandant de ses militaires. C'est ainsi que l'un d'entre eux a été arrêté et les deux autres ont pris la fuite. Ils ont été retrouvés à Likasi. Il y a moins d'une semaine qu'ils sont gardés à la prison de Kipushi, dont dépend Mitwaba sur le plan judiciaire. Au regard de la gravité des faits, la société civile de Mufunga Sampoué ne jure que par le relèvement des militaires en poste à Mitwaba.
Nous demandons d'abord l'évacuation de ces militaires qu'on nous envoie un petit nombre bien formé pour juste bien sécuriser la population.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Économie à présent, hausse de prix des produits pétroliers sur la ville de Kananga, chef-lieu de la province et du Kasaï central. Depuis plus d'une semaine en effet, un litre d'essence qui s'est vendu à 4600 francs congolais dans les stations-service est passé à 6000 francs congolais. Raison évoquée par des sources concordantes, la rareté des produits à Kananga, la correspondance de François Kadima.
Certains fournisseurs de produits pétroliers estiment que cette rareté est liée à l'impraticabilité de la route Kananga-Kalamambouji et celle de Mbujimayi-Kananga, les deux voies, selon eux, étant le plus importantes en fourniture de carburant. Du côté des revendeurs de l'essence et des mazouts, l'on indique que cette crise est la conséquence de multiples taxes imposées par les services de l'État en province. Les conducteurs de moto-taxi, communément appelés Wewa, eux pointent la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo SNCC, qui selon eux est à la base de cette situation avec l'augmentation du coût de transport. Du coup, le prix de la course sur la moto est passé de 500 francs à 1000 francs congolais sur certaines lignes. Les conducteurs de moto-taxi commencent à trier les clients et les prix de transport ne sont plus discutables comme par le passé. Par exemple, pour quitter actuellement le marché Tchamandiba vers l'aéroport de Kananga jusqu'au centre-ville, la moto est passée à 2000 francs congolais. Même prix pour le tronçon centre-ville Nganza, centre-ville Katoka, centre-ville Desha et centre-ville Lukonga. Avant, faire ces distances coûtait 800 francs congolais, voire 1000 francs congolais. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Et puis à Bolomba et dans les territoires de Bassankoussou et de Makanza, les écoles sont fermées depuis plus de 2 semaines maintenant. Les enseignants en grève réclament les arriérés de 4 mois de leur salaire. Une tâche confiée à la Caritas. Aucune solution n'est trouvée en dépit des démarches qui ont été menées. C'est pourquoi le député provincial élu de Bolomba, Peter Lopossé, met le gouvernement congolais devant ses responsabilités. Il le dit à Paul-Richard Malengela.
Le gouvernement congolais paie les enseignants mensuellement. Et le retard de 4 mois, ce retard provient d'où? Est-ce la faute du gouvernement? Est-ce que c'est la faute de la banque? La banque centrale donne à Ifod, Ifod à son tour donne la Caritas Bassankoussou. Si c'est la faute de ces deux banques-là, nous allons demander au gouvernement congolais de réorienter la paye de ces entités dans une banque qui est présente en Bandaka, soit à l'Équateur. Et j'ai trouvé même une grève. À Bolomba, les enseignants et les enfants ne sont pas à l'école. C'est parce que ça fait 4 mois. Et ces enseignants, ils ont leurs enfants à l'université, à l'école. Et comment on peut travailler pendant 4 mois et on n'est pas payé? Nous interpellons tout le monde au niveau de Kinshasa, même au comité national de suivi des payes, de voir la situation du territoire de Bolomba, Bassankoussou ainsi que Makanda. C'est parce que 4 mois c'est beaucoup. Nous sommes humains. Nous appelons la conscience de tout le monde au niveau de Kinshasa de décanter cette situation parce que ça risque de biaiser la gratuité de l'enseignement de base.
L'actualité, c'est aussi la fin ce jeudi à Cape Town en Afrique du Sud du forum minier Indaba. L'un des événements marquants pour la première fois depuis l'existence du forum, c'est le discours du président de la RDC. Félix Tshisekedi Tshilombo avait fustigé le fait que le peuple congolais ne profite pas encore de la richesse minière du pays. Il a invité également le secteur minier africain à construire ensemble un pacte de confiance pour développer la RDC. Mais comment les miniers ont accueilli ce message du chef de l'État congolais? Écoutez la réponse de Cyril Mutombo, directeur pays du groupe Barrick multinational qui détient en partie Kibali Gold, la plus grande mine d'or en RDC située dans la province du Haut-Uele.
C'est un réveil que le chef de l'État nous a lancé pour que nous puissions nous assurer que ces communautés, non seulement dans les environs de mines, mais au travers de la nation, puissent bénéficier partant de l'exploitation de nos mines. Non seulement les ETD qui doivent avoir le 15% de la redevance, ou les provinces qui doivent avoir leur part de la redevance, mais aussi les communautés qui bénéficient aux différents mécanismes comme le 0,3% de nos chiffres d'affaires qui constituent la dotation pour le développement. Pour ce qui est de Kibali, vous l'avez constaté, à ce jour, la contribution à l'économie de la RDC a dépassé la barre des 4,4 milliards de dollars. Ça ne dit pas que nous allons nous arrêter là. Nous tenons avec beaucoup de respect le constat du chef de l'État et je vous promets que nous allons aller dans le sens justement à ce que cette contribution du secteur, pour ce qui nous concerne en tant que Barrick, soit de plus en plus visible.
La principale attente de la diaspora congolaise en l'enrôlement, c'est d'aboutir à des élections permettant ainsi à la RDC d'avoir des dirigeants pétris des valeurs et qui aiment le pays. Cet amour passe par l'humilité et l'honnêteté dans la gestion des affaires publiques. C'est ce que pense en tout cas Jules Monga, ancien fonctionnaire congolais vivant à Pretoria en Afrique du Sud. Il affirme que la corruption décourage ces jours-ci certains Congolais de l'étranger à s'intéresser à ce qui se passe au pays. Et il s'est confié à Grassa Mouzati.
La corruption, c'est un mot qu'il faut éradiquer dans toute société. Mais c'est pas comme nous apprenons au Congo, un vice que les gens ont transformé en un mode de vie. Ici en Afrique du Sud, par exemple, on peut dire quelqu'un a volé 10 millions de rentes ou 20 millions de rentes, comme on reprochait au président Zuma 20 millions de rentes. C'est à peu près 1 million de dollars qu'on reproche à Zuma d'avoir volé. Pourtant, il n'a pas touché cet argent. C'est l'argent qui a été commis au renouvellement de son domicile privé dans son village de Kandla. C'est seulement 1 million quelque chose de dollars. Mais cependant, il est parti, il a quitté le pouvoir pour ça. Mais chez nous, les gens volent des centaines de millions de dollars. Ils ne sont pas inquiétés. Tout un budget qui est dilapidé. Ça nous effraie. Vous pouvez construire des estates. Vous pouvez transformer des villages en construisant des avenues. Ce que nous voyons ici, ce n'est pas de la folie. Même quand Félix avait dit qu'il peut faire l'Allemagne d'Afrique, mais il peut le faire. Il rêvait parce qu'il vient de là, de l'Europe. Et c'est faisable, mon frère. Ici, on construit des buildings de 20 étages dans 5 à 6 mois. L'amour du pays exige à ce que tout ce qui est alloué à chaque service, il faut qu'il serve au maximum et que les résultats soient palpable et ça fait la fierté, même la gloire d'un peuple. C'est comme ça qu'une nation s'élève.
L'actualité judiciaire maintenant, les magistrats et les procureurs près la cour d'appel du Kwilu sont appelés à un éveil de conscience et au changement des mentalités. Appel lancé par le procureur général de cette juridiction lors de la première réunion annuelle de 2023, une réunion tenue hier au gouvernorat. Bernardin Niami fustige des comportements d'indignité qui ont été rapportés l'année dernière. Il les dit à Irène Boma.
Si j'ai demandé au chef d'office de venir à Bandundu assister à la première réunion des services ici, c'est parce que j'ai une conviction profonde qu'en dépit des revendications que nous enregistrons sur le terrain et au téléphone, sur des accusations des justiciables, il s'agit souvent de ce qui touche à la dignité des magistrats. Pour rencontrer ces aspirations, l'accès à la justice demeure un impératif majeur afin que chaque citoyen, où qu'il soit, accède à son juge naturel pour faire valoir ses prétentions. Ce qui importe par ailleurs, c'est le changement de mentalité de tous les acteurs du secteur de la justice qui doivent, en toutes circonstances, avoir un comportement exemplaire qui inspire la confiance et le respect des citoyens. Pour clore, je vous encourage donc à persévérer dans les efforts que les uns et les autres fournissent au quotidien en vue de redorer les blasons de notre ressort dont la mission première est de garantir la loi, assurer le respect des libertés individuelles et promouvoir les droits fondamentaux. Puisse la première rencontre éveiller la conscience d'un chacun et être un nouveau départ dans la marche de notre justice.
Actualité internationale.
Le ministre des Affaires étrangères, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui séjourne actuellement à Khartoum, va échanger aujourd'hui avec les dirigeants militaires du Soudan sur divers sujets d'actualité. Outre les liens entre le Soudan et la Russie, les discussions devraient porter également sur le rôle de Khartoum dans les affaires de pays voisins touchés par les conflits, notamment le Tchad, le Soudan du Sud et la République centrafricaine. C'est ce qu'annonce cet après-midi le ministre soudanais des Affaires étrangères par intérim, Ali Saïd, n'a pas donné d'amples détails. Les pertes économiques liées au séisme qui a frappé récemment la Turquie et la Syrie voisine devraient dépasser le 2 milliards de dollars américains et pourraient atteindre même 4 milliards de dollars et plus, a affirmé ce jeudi après-midi l'agence de notation Fitch. Cependant, ces montants assurés sont beaucoup plus faibles, peut-être autour d'un milliard de dollars américains en raison de la faible couverture d'assurance dans les régions qui ont été touchées par cette calamité naturelle.
L'invité.
Notre invitée, c'est Madame Francine Muyumba, cette sénatrice membre du FCC, le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila, a initié à Kinshasa une pétition exigeant la convocation d'une session extraordinaire du Parlement, objectif mettre fin à l'état de siège et annuler l'accord avec l'EAC. Elle s'entretient avec Michel Kifinagoy.
Francine Muyumba, bonjour.
Bonjour Michel.
Comment analysez-vous la résurgence de l'insécurité dans la partie est du pays?
J'aimerais tout d'abord dire que le temps est en train de rétablir la vérité et je pense que cette situation sécuritaire désastreuse, chaotique, est un grand regret pour nous tous parce que il y a des choses qu'on pouvait éviter. Malheureusement, personne ne voulait écouter. Il y avait trop d'orgueil du côté de Kinshasa. Et moi, je pense que nous sommes en train de payer aujourd'hui. Nous sommes en train de payer les prix de l'orgueil. Parce que nous devons toujours faire en sorte que, malgré nos divergences, que nous soyons ensemble dès lors que notre pays est attaqué.
Vous plaidez pour la convocation d'une session extraordinaire. Votre pétition ne fait que collecter davantage des signatures. Qu'est-ce que vous comptez examiner au cours de cette session?
Écoutez, le pays, conformément à la Constitution, a des institutions. Il y a l'institution président de la République, l'institution parlement, les gouvernements, les cours et tribunaux. Et lorsque chaque institution arrive à jouer son rôle, je pense que nous pouvons tant soit peu résoudre les problèmes qui sont les nôtres. Mais aujourd'hui, nous avons un corps dont la tête seule fonctionne. Et ça, c'est dangereux. Aujourd'hui, nous voyons, c'est l'institution, surtout président de la République, qui est au four et au moulin, parce que le Parlement est réduit au silence.
Et pensez-vous qu'une session extraordinaire de 15 jours ou 30 jours peut apporter des solutions à un problème qui n'a que trop perduré?
Tout à fait, à mon humble avis, parce que le moment que le pays est en feu, cela veut dire qu'il y a une urgence. Cela veut dire que le Parlement doit pouvoir convoquer cette session extraordinaire afin d'examiner tout ce qui se passe là-bas à l'Est. Il est temps de réorganiser les commandements au niveau de l'Est. Il n'est pas tard et je pense que nous pouvons nous ressaisir. Parce qu'en 2013, cette même armée, si je ne me trompe pas, a été à mesure, bien sûr, de mettre hors d'état de nuire le rebelle du M23. Si nous convoquons la session extraordinaire, moi, ma position est déjà claire. C'est de mettre fin à l'état des sièges et aussi que le gouvernement nous apporte l'accord qu'il a signé avec la force régionale. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, cette force et ces troupes n'arrivent pas au front. Et moi, je pense que nous ne pouvons pas avoir des troupes qui ne se positionnent pas au front et qui n'aident pas nos militaires.
Qu'est-ce que vous vous proposez comme alternative très concrètement à l'état des sièges?
Comme vous le savez, rentrant à la Constitution, l'état des sièges est une période spéciale. Ce sont des mesures exceptionnelles. Moi, je pense que nous devons retourner à la configuration normale, laisser les militaires aller se battre au front. Il ne faut pas ajouter aussi la gestion et l'administration et tout ça, c'est chargé, l'armée. Et je reviens toujours sur ma position concernant la SADC parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu de sincérité du côté SADC. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Est, je ne pense pas du tout que cette communauté nous apportera de solutions.
Comment expliquez-vous que ce pays a déjà été aidé par une armée de la région, notamment la SADC? Là, vous aviez applaudi et ce qui est incompréhensible, c'est qu'une autre armée de la région, notamment de l'EAC, vient nous aider et vous trouvez que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui motive votre position?
Ma position est motivée du fait que dans la communauté l'Afrique de l'Est, c'est là où se trouvent les détracteurs de la République démocratique du Congo et c'est là où se trouvent les agresseurs de la République démocratique du Congo. Donc si nous cherchons des solutions, nous ne pouvons pas aller vers celui qui est bien entendu à la base de la souffrance des Congolais.
La population de Goma manifeste contre cette force de EAC et au cours de ces manifestations, il y a eu des dérapages, notamment une église a été attaquée, mais aussi un convoi des casques bleus des Nations Unies. Comment analysez-vous le soulèvement de la population?
Protester, c'est un droit constitutionnel, mais il faut le faire dans la paix et éviter la violence. Je demande humblement à la population du Nord Kivu et surtout à mes frères et sœurs de Goma d'éviter de jouer au jeu de l'ennemi, parce que l'ennemi profite de ses actes pour brandir ça partout dans le monde, pour dire que voilà ce que les Congolais sont. Et moi, je vous l'ai dit avec l'expérience après avoir servi dans les couloirs diplomatiques, et je sais comment l'ennemi joue avec nos divergences au niveau interne. J'aimerais que dans la paix, nous puissions rester ensemble, éviter d'attaquer des innocents, éviter d'attaquer des églises.
Sénatrice Francine Muyumba, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, Monsieur Michel.
C'était l'invité de Radio Okapi, Madame Francine Muyumba, sénatrice, membre du Front commun pour le Congo FCC de Joseph Kabila, a été interviewée ici à Kinshasa par Michel Kifinangoy. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté. Merci infiniment à Pélé Kibela Mondo qui m'a accompagné.